Clé en main du mois de juin, le dernier nouveau numéro de la saison sur Radio Grand Ciel. Alain Romestan, bonjour. Une fois de plus, pour Clé en main, le hasard des rencontres heureuses a joué. J'ai rencontré Mirla Oviedo-Massé lors d'une soirée de présentation de la crise sanitaire au Venezuela. Par Médicos Unidos Venezuela, Médecins Unis pour le Venezuela, Antenne France, j'ai eu envie de m'entretenir plus longuement avec la présidente de ce MUV France, qui a accepté cette interview, Dr Mirla Oviedo-Massé. Merci de nous accueillir chez vous.
Merci de m'avoir invité.
Pour ceux qui le souhaitent, un excellent article du quotidien du médecin peut être lu pour vous connaître mieux, mais pour débuter notre entretien, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs qui ne vous connaissent pas?
Eh bien, comme vous venez de le dire, je suis médecin spécialisé en gynécologie obstétrique. J'ai fait tout mon parcours au Venezuela. Et je suis arrivée en France en 1997 pour parfaire mon spécialité dans les domaines de l'infertilité et de la célioscopie. Et la vie a fait que je suis restée jusqu'à maintenant. J'ai fait ma vie personnelle et j'ai continué à parfaire ma vie professionnelle.
J'ai sous les yeux un marque-page, Médecins Unis du Venezuela, où l'on peut lire « Dénoncer la crise sanitaire, soutenir la population, parrainer les internes, accompagner les médecins arrivant en France ». Il est temps de présenter donc MUV France, son organisation, son fonctionnement, ses actions.
MUV France, comme vous venez de le dire, Médecins Unis du Venezuela, Antenne France, c'est une antenne de une ONG qui est née en 2016 au Venezuela, en plein crise globale, mais cette organisation a été créée par un groupe de médecins qui, initialement, s'étaient réunis dans la rue pour protester pour la situation sanitaire des hôpitaux, et qui ensuite ont décidé de s'organiser et créer cette association pour défendre les droits du Vénézuélien, les droits à la santé. C'est une ONG qui est née dans cette situation, dans le but de défendre les droits humains, notamment les droits de santé, parce que c'était formé notamment par des médecins. Petit à petit, il y a des antennes qui se sont créées partout au Venezuela. Actuellement, il y a une antenne pratiquement dans chaque état du Venezuela. Le Venezuela compte avec 22 états et 12 autres territoires. Et dans chaque état, il y a une antenne, un représentant. Et ensuite, il y a des antennes qui se sont créées à l'étranger, avec cette migration des collègues qui a débuté justement comme conséquence de cette crise globale et crise sanitaire. Donc il y a des antennes aux États-Unis, Washington, Houston, Utah, en Espagne, au Chili, à l'Équateur, en Suisse. MUV France, si vous voulez, est une des antennes les plus présentes parce que la France, qui est un pays des droits, nous exige. On a voulu faire les choses comme on fait dans un état de droit et on a registré, on est inscrit au journal des associations de France à partir du 1er juin 2019. Donc, si vous voulez, il y a d'autres antennes qui fonctionnent pas officiellement inscrites dans leur pays parce que chaque pays a une législation différente. Par exemple, aux États-Unis, ce n'est pas très facile d'inscrire une ONG. Donc, pour revenir à MEV France, on était cinq collègues qui nous sont réunis avec cette idée de lancer cette nouveau-né qui maintenant a 3 ans en juin, avec ces objectifs qu'on a voulu englober, si vous voulez, dans aider à la population vénézuélienne, aider aux Vénézuéliens à avoir accès aux soins de qualité. Donc, et ensuite, on a pensé aussi à nos étudiants de médecine et on a décidé de créer ce programme qu'on a appelé programme de parrainage, où on demande aux personnes donateurs, solidaires avec la situation vénézuélienne, de verser 20 euros par mois et nous faisons l'envoi pour des moyens qui ne sont pas faciles à cause de la situation du pays. On met en contact parents, marraines avec leurs filles, filles, et cet argent les permet d'aider à ces dépenses. Beaucoup de ces étudiants vivent loin et c'est en petite aide compte tenu de la situation, mais ils sont très reconnaissants. Et aussi, à part notre premier objectif, qu'on dit premier, mais ils sont tous importants, c'est celui de dénoncer la crise sanitaire. C'est très difficile de traduire pour un pays comme la France à ce qui se passe au Venezuela, notamment au niveau de santé. Puisqu'on a les meilleurs systèmes de santé du monde. Donc, c'est très difficile de faire comprendre à notre système de santé qui, à un moment donné, fonctionnait pas mal et qui maintenant, bon, on considère délabré. Donc, dénoncer la crise sanitaire, donc aider les étudiants de médecine, aider aussi les Vénézuéliens en général avec l'envoi aussi des matériels et des médicaments que nous recevons des dons, en don de matériel médico-chirurgical et des médicaments, et accompagner, parce qu'on n'a pas vocation non plus d'avocat ni d'assistant social, mais on accompagne, on soutient tous ces collègues qui ont décidé aussi de partir à la recherche d'une meilleure qualité de vie et qui arrivent en France dans leur insertion, dans leur parcours d'insertion sociale et professionnelle. Voilà, globalement, nos objectifs et nous essayons de les faire au mieux.
Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes.
así te darás de cuenta que si te engañan duele. Te lo juro que sí.
Essayons d'aller un petit peu plus loin sur la situation économique au Venezuela, situation passée et actuelle. Que se passe-t-il depuis plusieurs années dans ce pays ?
Oui, c'est très difficile parce que bon, je ne suis pas économiste. Et même les économistes, ils se tirent les cheveux pour essayer d'expliquer la situation du Venezuela. Et ce passage d'un pays... considéré pendant des années, je parle à peu près des années 70-80, début 90, et l'Arabie saoudite de l'Amérique du Sud ou de l'Amérique latine, hein, pays fondateur de l'OPEP, Organisation des pays exportateurs de pétrole, à l'époque troisième exportateur, détenteur de la plus grosse réserve mondiale de pétrole. On est les pays avec les plus grosses réserves de pétrole du monde et on est les pays qui nous pouvons considérer un des plus pauvres du monde au jour d'aujourd'hui. Donc cette transition, je ne suis pas non plus politique, mais cette expérience associative m'a permis de voir un petit peu plus de haut ce phénomène, parce que le Venezuela devient un phénomène d'étude. Je pense qu'il va l'être pendant des années. Et ça sera peut-être d'ici quelques années qu'on va comprendre ce qui s'est passé au jour d'aujourd'hui. Donc on vient de dictatures aussi. On a été Simon Bolivar, notre libertateur, a mis les Espagnols dehors en 1805. Et on a subi des dictatures. Et petit à petit, on est rentré en démocratie, après un coup d'État militaire. Et donc, et cette jeune démocratie qui s'est partagée, si vous voulez, entre partis de centre-droit, de centre-gauche, mais qui, compte tenu cet essor économique, hein, grâce au pétrole, il s'est instauré. Au Venezuela aussi à deux vitesses, dans le sens où il y avait donc le Venezuela aisé et le Venezuela pauvre, notamment les gens qui ont migré des campagnes vers la ville, parce que ce pétrole a permis aussi un développement de cette ville citadine. Un peu en détriment de la campagne, mais cet exode rural vers la ville, c'était aussi à la recherche d'un meilleur niveau de vie. Donc il s'est instauré un Venezuela pauvre. Mais il y avait toujours l'ascenseur social. Dans cette période pré-Chavez, je suis née de cette période pré-Chavez. Je suis née d'une famille très modeste, aussi d'un père qui est venu de la campagne vers la ville pour donner de l'éducation, de la meilleure éducation à ses enfants. Et j'ai fait tout mon parcours personnel, parcours professionnel et d'éducation, dans l'école publique du Venezuela, qui à l'époque, c'était d'un excellent niveau et qui nous permettait donc d'avancer dans l'échelle sociale. Donc j'ai pu ainsi, une fois que j'ai eu mon diplôme et j'ai débuté mon spécialité à Caracas, j'étais diplômée de médecin dans ma ville d'origine, Barquisimeto, dans un état qui est situé au niveau centre-occident, centre-ouest du Venezuela, 10 ans d'études, à peu près équivalent à la France, hein, et l'spécialité 3 ans d'études à Caracas. Lorsque je suis arrivée à Caracas, j'ai pu, c'était évidemment avec des économies aussi, j'ai pu m'acheter ma première voiture, hein, sans apport de mes parents. Donc, je suis, si vous voulez, un pur produit de cette Venezuela. J'ai décidé de partir pour parfaire mes connaissances et retourner au Venezuela servir à mon pays. Mais bon, la vie a fait une autre chose et je ne regrette pas parce que j'ai adopté la France comme mon deuxième pays. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette Venezuela d'après Chavez? Donc, le président Chavez, il est arrivé dans son Venezuela qui était aussi lassé d'attendre qu'il y ait un changement social, que les Venezuelans pauvres soient aidés et que les niveaux de corruption aussi soient contrôlés. Et Chavez le président Chavez, il a gagné aussi sous cette promesse que malheureusement les faits démontrent que ça n'a pas été accompli.
Con el mío, luna, luna, luna llena menguante. Luna, luna, luna llena menguante. Anda muchacho a la calle. Luna, luna, luna llena menguante.
Radio Grand Ciel.
Chavez a voulu faire un autre Venezuela. Et donc tout le monde attendait un autre Venezuela, parce que tout le monde était lassé de cette situation, d'un parti sans con, un autre parti sans con, deux partis différents, mais c'était les social-démocrates et les démocrates chrétiens à l'époque. Et les Vénézuéliens ne voyaient pas gros changement dans son niveau de vie. Et ces messieurs arrivent en faisant des belles promesses devant une population qui était lassée. Et donc tout était, les conditions étaient données pour que lui ait accès au pouvoir, comme ça a été en 1998. Et j'avais un nom en France. Je n'ai pas pu voter parce que je n'étais pas inscrite à l'époque au consulat pour voter. Donc, je n'ai pas participé à cette élection, la première élection de M. Hugo Chavez. Le président Chavez est arrivé à un moment où il y a eu un essor pétrolier. Le prix du baril était à un des plus hauts niveaux de l'histoire. Donc, il a eu la chance de recevoir une manne pétrolière, beaucoup d'argent, je ne suis pas économiste, les chiffres m'échappent, mais une manne pétrolière pour faire tout ce qu'il a voulu. Donc il a, je pense, acheté beaucoup de conscience et il a fait des choses, notamment dans la partie de santé. Il a créé un système de santé parallèle à celui qui existait. Il a voulu faire quelque chose à son image. Et à l'époque, tout le monde, et les gens parlent encore des fameuses missions, la mission Vivienda, la mission Maison, la mission Barrio Adentro, qui est cette mission dont les objectifs, c'était un très noble objectif, d'amener les soins aux plus pauvres, aux quartiers les plus pauvres et plus reculés. Et pour cela, tout en ayant de nombreux médecins au Venezuela, donc il a échangé du pétrole avec des médecins avec Cuba, qui a toujours été son principal partenaire politique. Donc tout ce réseau de dispensaires qui aujourd'hui sont presque hors service. Ça s'est dégradé au fil du temps, comme les pays même. Et ça, c'est mon opinion personnelle. J'ai toujours dit, si ces messieurs ils auraient investi tout cet argent en améliorant les réseaux de santé déjà existants, peut-être, ça serait autrement au jour d'aujourd'hui. Mais il y a, je veux comprendre, parce que bon, je ne suis pas politicienne non plus, mais qu'il y a aussi un fond derrière, un fond politique. Il y a eu des accords avec les gouvernements cubains, peut-être, mais tout le monde sait que les médecins cubains qui sont exportés par ces gouvernements, c'est des médecins qui sont un peu... vous voyez, sous pression, et donc les salaires sont partis pour les autorités cubaines. Et au Venezuela, il y a eu aussi une intégration de ces médecins cubains à la société. Il y a pas mal de médecins cubains qui sont restés tout simplement au Venezuela. Il y a aussi une instrumentalisation de ses collègues cubains, parce que à part de dispenser des soins, ils avaient aussi une fonction idéologique, parce que pas mal des compatriotes racontent que le médecin lors de la consultation, il y avait aussi des mots un peu qui sortaient du cadre médical et qui parlaient aussi de la situation politique. Donc, est-ce qu'il y avait aussi une fonction idéologique ? Donc, point d'interrogation. Ceci dit, le gouvernement cubain n'a pas seulement donné des soutiens au niveau médical, il a eu aussi des soutiens dans les secteurs des finances, dans les secteurs des cadastres. J'ai eu l'occasion d'aider à l'organisation d'un congrès franco-français, parce que c'est un congrès qui se tenait toujours aux Antilles, mais l'organisation a voulu la faire à Cuba. Il y a eu 3 éditions de ce congrès, ça s'appelle les JTA, les Journées de Techniques Avancées en Gynécologie Obstétrique, en Fertilité et Pédiatrie. Et ces 3 éditions, j'étais présente, j'ai aidé à l'organisation, la partie des contacts avec les collègues cubains, et j'étais sur place, parce qu'on donnait des ateliers. Et j'ai eu l'occasion d'échanger avec les collègues, mais les collègues sur place, donc, il a un contrôle politique très présent, tu vois. Et on sentait qu'il ne savait pas trop le droit de parler de l'aspect politique. Mais j'ai connu aussi des avocats et des ingénieurs qui m'ont fait les commentaires de ces missions aussi au Venezuela dans leur secteur. Alors qu'au Venezuela, on a toujours compté avec d'excellents professionnels. Donc, j'ai jamais compris, à vrai dire, cette intention, mais les conséquences sont là. Le système de santé, s'il a voulu le remplacer, bon, le nouveau système de santé n'a pas servi non plus. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le système de santé, donc, il est restructuré. Les hôpitaux qui fonctionnaient excellemment à l'époque, l'hôpital d'enfants, le principal hôpital d'enfants de Caracas, s'appelle JM de los Ríos, c'était un hôpital de référence au niveau de l'Amérique du Sud dans les années 70-80. Des collègues des autres pays et de l'Amérique latine venaient au Venezuela se former. On avait des écoles, on avait des sociétés scientifiques de référence, on avait l'Institut vénézuélien d'investigation scientifique, que c'est l'équivalent à peu près au CNRS d'ici, avec ses différents INSERM, qui existe encore, mais qui fonctionne avec la vocation des collègues, mais qui n'est nullement au niveau qu'il avait dans ces années d'essor vénézuélien. Donc, il est fort de constater que les intentions de ce nouveau gouvernement qui est là depuis plus de 20 ans n'ont pas suffi et que la réalité nous lance à la figure qu'il ne fallait pas faire ça non plus.
Thank you.
Radio Grand Ciel, 106.8 à Chartres.
Pour voir la situation médicale, est-ce que l'on peut prendre quelques problèmes de santé? Et puis, je vous demanderai de réagir, si vous voulez, par rapport à ces problèmes de santé que l'on voit en France comme véritablement catastrophiques pour le Venezuela. Commençons par la pandémie, le Covid.
Le Covid a pris le Venezuela au dépourvu. Il est vrai qu'en France aussi, on a eu des difficultés. On n'avait plus de masques, par exemple. Mais au Venezuela, le Covid est arrivé alors que les hôpitaux étaient déjà dans leur état de délabrement continuel, avec des coupures régulières d'électricité et d'eau potable, et avec un personnel de santé amoindri suite à cet exode des Vénézuéliens qui a commencé à peu près à partir de 2016-2017, que c'était des années d'une instabilité politique profonde. Parce qu'il faut dire que le Venezuela a été justement en 2016 considéré, estimé, et c'est déjà noir sur blanc, l'ONU l'a considéré comme étant dans un état d'urgence humanitaire complexe. Et c'est une dénomination justement qui a été élaborée, justement parce qu'une urgence humanitaire, on pense toujours à la catastrophe naturelle ou à la guerre. L'urgence humanitaire du Venezuela a été estimée, considérée comme complexe parce qu'il est conséquence ni d'une guerre, ni d'une catastrophe climatique ou naturelle, mais d'une instabilité politique. Donc, 2016-2017, c'était aussi les années des manifestations dans la rue, en protestation contre le gouvernement en place. Donc, des manifestations aussi où il y avait l'opposition à ce gouvernement, où il y a eu aussi des morts des étudiants et des non-étudiants qui ont ébranlé même l'opinion internationale. Donc le Covid en 2020, il arrive et dans son situation sanitaire catastrophique. Et comme en France, donc, le peu qui était disponible était dirigé à prendre en charge cet afflux des patientes dont on ne connaît pas très bien et on ne connaîtra jamais les nombres parce que les chiffres au Venezuela, au point de vue sanitaire, sont des chiffres pas crédibles. Pas crédibles dans le sens où il n'y a pas de publication épidémiologique depuis des années. Et le dernier bulletin épidémiologique date de 2016. Donc il n'y a pas de chiffres officiels, donc c'est difficile d'avoir des chiffres crédibles. Donc, le gouvernement qui a distribué des tests, donc faisait les statistiques basées sur les tests, alors que le nombre de tests c'était plus qu'insuffisant. Donc, évidemment, le nombre de cas n'était représentatif de la réalité. Médecins Unis du Venezuela a pris comme mission, depuis l'arrivée de la pandémie, de colliger par enquête par ses membres et par les collègues hospitaliers dans tout le réseau des antennes, colliger les cas de décès des professionnels de santé dû au Covid. Mais comme on avait ce grave problème de test, donc la définition des décès cause Covid a été faite sur la base des symptômes cliniques et radiologique, évocatrice de Covid, puisqu'il n'avait pas de test suffisant. Et c'est ainsi que mon médecin uni du Venezuela, qui est cité dans des grands rapports internationaux comme celui de l'Université Johns Hopkins, du Centre de santé humanitaire de l'Université Johns Hopkins, qui a été publié récemment en mars, Médecins Unis du Venezuela, dans tous ces rapports que vous pouvez regarder sur nos réseaux sociaux, parce qu'au niveau des réseaux sociaux, il y a eu continuellement des publications, des tableaux, des nombres de décès, des professionnels de santé décédés, médecins, biologistes, infirmiers. Et on est arrivé à la fin de 2021, approximativement à plus de 700 professionnels de santé décédés à cause du Covid. Alors que le taux global annoncé officiellement, c'est autour de 5000. Donc, c'est impossible. Hein, qu'il y ait cette proportion, mais c'est justement dû à ce sous-registre. Donc, on ne peut pas avoir une idée claire et réelle du chiffre. Mais la pandémie a aggravé notre situation, nous a pris au dépourvu. L'OMS, avec son mécanisme COVAX, a apporté de l'aide. Et le gouvernement, avec ses accords et ses partenaires avec le gouvernement cubain, a fait venir des doses de vaccins. Mais les sociétés scientifiques du Venezuela, l'Académie vénézuélienne de médecine et les sociétés scientifiques, société vénézuélienne d'infectologie, ils se sont insurgés contre l'utilisation de ces vaccins qui, à l'époque, c'était des prototypes de vaccins. Donc, c'était une sorte d'étude que le gouvernement cubain faisait avec la population vénézuélienne, sans toutes les rigueurs scientifiques qui exigent des études de ce niveau-là, parce que c'est pratiquement une étude des populations sur l'efficacité d'un vaccin. Donc, ceci dit, les chiffres, c'est autour de 6000 décès par Covid, ce qu'on peut lire des chiffres officiels, mais c'est sûrement beaucoup plus que ça.
Radio Grand Ciel, vous nous écoutez sur 101.4 à Nogent-le-Rotrou.
Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Quand on veut chanter l'espoir, quel manque de peau. Oui, j'ai beau voir le ciel, l'oiseau, rien, lui là-haut, les anges, zéro, je suis blanc de peau. Armstrong, tu te fends la poire, on voit toutes tes dents. Moi, je bois plutôt du noir en dedans. Chante pour moi, Louis. Oh oui, chante, ça tient chaud, j'ai froid. Oh, moi qui suis blanc de peau. Yeah. Armstrong, la vie, quelle histoire, c'est pas très marrant.
qu'on l'écrive blanc sur noir. Bien noir sur blanc, on voit surtout du rouge. Du rouge. Sans prévenir, faut qu'on soit, ma foi, noir ou blanc de peau. Armstrong, un jour, tôt ou tard, on n'est que des os. Est-ce que les tiens seront noirs? Ce serait rigolo. Alléluia, alléluia. Au-delà de nos oripeaux, noir et blanc sont ressemblants comme deux gouttes d'eau. Yeah.
Alors, la santé et les femmes, dans ce contexte, disons, médical tout à fait particulier, quelques mots sur... Vous êtes gynécologue. Mm-hmm. Quelques mots sur ce système médical et les femmes.
Donc, les femmes... disons que les femmes subissent les conséquences de cette de plein fouet, les conséquences de cette crise profonde, parce que bon, au Venezuela et dans toute l'Amérique latine, commençons par la grossesse. La grossesse chez l'adolescente a été toujours un problème de santé publique. Et avec toute cette situation de crise sanitaire, donc ça n'a fait qu'empirer. La non-disposition, le non-accès, la non-disponibilité ou la très peu disponibilité aux moyens de contraception. Les laboratoires scientifiques, les laboratoires, l'industrie pharmaceutique a déserté le Venezuela. Dans les années 80, on avait plusieurs laboratoires pharmaceutiques internationaux qui siégeaient au Venezuela et qui conditionnaient les médicaments au Venezuela. Donc, depuis des années, il n'y a plus, l'industrie pharmaceutique n'est plus présente. Et donc, c'est des médicaments qui sont apportés de Cuba et de l'Inde, par exemple. Donc, au milieu de tout ça, donc, d'une part, l'accès aux moyens de contraception et également pour la contraception locale, les préservatifs, inaccessible à cause du prix. Parce que tout ça, il faut aussi le voir à travers la loupe du pouvoir d'achat. Donc, les salaires moyens, ils se sont détériorés à tel point que les Vénézuéliens avaient que pour manger, les Vénézuéliens, de base. Parce que si on parle de l'autre, disons, l'autre Venezuela qui a toujours existé, avant Chavez, il y avait un Venezuela favorisé, mais après Chavez, il y avait aussi une nouvelle classe favorisée sociale, qui tournait et qui tourne encore autour du gouvernement en place. Donc la Vénézuélienne de base continue à avoir des problèmes d'accès aux contraceptions. Donc, la grossesse chez l'adolescente continue à être un problème de santé publique. La prévention, la médecine préventive, c'est presque inexistant, et toutes les pathologies liées aux maladies sexuellement transmissibles comme corollaire de cette absence de protection a explosé. Les maladies des grossesses liées à la grossesse, comme la préclampsie. La préclampsie, c'est une des causes des morts maternelles. Les chiffres de mortalité maternelle a augmenté dans les dernières années de 5%, dû surtout à cette complication liée à la grossesse, qui sont détectables pour une médecine préventive, à travers un contrôle prénatal bien mené. Justement, en faute, encore une fois, due à cette déstructuration du système de santé vénézuélien. La mortalité infantile, il a aussi augmenté, surtout dans les moins de 5 ans. Par rapport à la région, au cours de ces 20 dernières années. Et les chiffres sont encore une fois difficiles à avoir à cause de cette absence de bulletins épidémiologiques et des recueils des chiffres et des statistiques sanitaires.
Alors, toute crise forte est suivie de problèmes de santé mentale. On le sait pour d'autres crises qui sont déjà intervenues. Qu'en est-il au Venezuela ?
Donc, au Venezuela, comme dans beaucoup d'autres pays, et donc en France aussi, dans son autre échelle évidemment, la psychiatrie, elle a toujours été les parents pauvres de la médecine. Et si avant les gouvernements de Chavez, il y a eu des problèmes au niveau des hôpitaux psychiatriques, des conditions des hôpitaux psychiatriques. Ces dernières 20 années, la médecine psychiatrique a pratiquement subi aussi les conséquences de l'absence de l'accès aux médicaments. Donc les pathologies psychiatriques ont explosé cause du manque de traitement et à la détérioration aussi de la prise en charge. L'absence des moyens dans les hôpitaux psychiatriques et aussi au niveau global, la santé mentale du Vénézuélien qui se confronte à une situation de pénurie de tout niveau, de pénurie d'alimentation, de pénurie de soins, de pénurie de médicaments, mais a aussi conduit à une aggravation de la santé mentale du Vénézuélien. Donc aujourd'hui, c'est un des secteurs les plus affectés.
Et les maladies type paludisme, tuberculose, qui avaient été, je pense, traitées il y a de cela quelques années, et peut-être éradiquées, où en sommes-nous à l'heure actuelle ?
Les maladies transmissibles, elles sont revenues. Justement, il y a eu dans les années 2017 et 2019 une épidémie de rougeole, alors que c'était une maladie qui était déjà contrôlée. Plus de 7000 cas. Et cette épidémie s'était même propagée aux pays voisins. Donc, l'OPS a pris les choses en main et ça a été moyennement contrôlé avec une campagne de vaccination qui a été mise en place en 2018. Donc, il y a eu, par conséquent, une nette augmentation des décès pour des maladies transmissibles, alors que c'était, comme le paludisme, la tuberculose, c'était des maladies qui étaient très contrôlées dans les années 80-90. Le paludisme, une augmentation de 800% entre 2007 et 2017. Le Venezuela, à cette époque, il détenait la moitié des cas de paludisme dans la région caribéenne, Caraïbes. La tuberculose, une incidence qui a doublé de 2014 à 2018. Chiffre encore du rapport de l'université de Johns Hopkins. Un manque de moyens, un manque de tests, un manque de financement des programmes de prévention. Manque de traitement. et toute cette pénurie des eaux, d'électricité au niveau hospitalier. Et ainsi aussi pour le VIH. Donc, une prévalence augmentée due aussi, encore une fois, à cette pénurie des moyens de prévention. On parle de préservatifs. Et due aussi à une pénurie des traitements. Les traitements antirétroviral qui a toujours été pas facile, pas accessible, donc, est devenu très difficile à obtenir dans les dernières années. Donc, si vous voulez, la situation actuelle, ces deux ou trois dernières années, il y a eu une apparente amélioration, parce qu'il y a derrière cette, encore une fois, les chiffres sont très difficiles à obtenir et à évaluer. Les travaux des ONG ont joué à l'ordre d'essayer de contenir et de pallier cette aggravation des cas au niveau des maladies globalement, mais dans les cas de cette pathologie de maladies sexuellement transmissibles, il y a des associations spécifiques pour les patientes HIV qui se démènent pour la prise en charge, pour l'orientation et pour l'obtention des traitements. Donc, les ONG locales, aidées par des ONG au niveau international, sont joué un peu le rôle que le gouvernement en place doit jouer et a dû jouer les dernières années et encore aujourd'hui.
Le mouvement donc que vous présidez a créé sa chaîne YouTube. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, parce que bon, un certain nombre d'auditeurs, s'ils veulent aller plus loin que cette émission, auront intérêt à écouter, à regarder cette chaîne YouTube.
Oui, c'est notre dernier réseau, c'est les nouveaux-nés dans nos réseaux sociaux. On connaît dans l'ère des réseaux sociaux, donc c'est le moyen de transmission d'informations les plus utilisées. Nos premiers réseaux, on était toujours Facebook, Instagram et Twitter. MEOV local au Venezuela est très actif en Instagram et en Twitter. Donc les moyens aussi de communication sont très difficiles au Venezuela. L'Internet il marche très irrégulièrement. Donc Twitter et Instagram nous sont pas mal aidés pendant la pandémie pour faire notre travail aussi d'éducation et de transmission des conseils sanitaires et d'information. Donc, on peut nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter et MEO France. MEO France vient récemment d'ouvrir notre chaîne YouTube. C'est tout simplement, il faut taper MEO France YouTube. Donc, elle n'est pas encore très riche, mais vous pouvez déjà regarder la vidéo de notre première événement sur la crise sanitaire qui a eu lieu aussi à l'Amérique latine, à la Maison de l'Amérique latine en mars 2020. Et pour le moment, on est en train d'éditer la vidéo de ce 12e événement sur la crise sanitaire qui vient de se passer le 7 mai et qu'on mettra en ligne prochainement. Cette chaîne YouTube, on l'a inauguré avec un concert de bienfaisance qu'on a eu la joie d'organiser en bénéfice de notre association avec l'aide des musiciens professionnels des orchestres Les Siècles et L'Amoureux de Paris et dirigé par notre grand chef d'orchestre vénézuélien Glass Marcano. C'était en novembre de l'année dernière, donc, qui nous a permis d'inaugurer cette chaîne cette chaîne YouTube qu'on espère enrichir.
Eh bien, Madame la Présidente, merci. Merci de nous avoir reçus. Moi et les auditeurs de Radio Grand Ciel, vous ne le savez peut-être pas, mais le slogan de Radio Grand Ciel, c'est « La radio qui rapproche les hommes ». On peut le dire, ce n'est pas un vain mot.